可惜，然后给。
Ancien porte-parole de la FIDEL de feu, le président Laurent Désiré Kabila, ministre de l'Information, Presse, Culture et Arts et secrétaire général des comités des pouvoirs populaires CPP, Raphaël Guenda Chongo et Mbankoy, est aujourd'hui l'invité de grands témoins.
Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation, obéissance aux dispositions légales de l'autorité de transition et notamment au décret loi constitutionnelle numéro 3 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. C'est à Kinshasa le 29 mai 1997.
Raphaël Guenda, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va, ça va.
Alors, on rappelle que le 17 mai 97, les troupes de Laurent Désiré Kabila entrent à Kinshasa. Nous venons d'entendre là un extrait du discours d'investiture de feu le président Laurent Désiré Kabila le 29 mai 97, soit 12 jours après sa prise de pouvoir. En renversant le régime du maréchal Mobutu, après 7 mois de conquête, il devint ainsi le 3e président de la RDC. Je vous ai vu très attentif, souriant. Qu'est-ce que cet événement vous rappelle?
Ça me rappelle beaucoup de choses, une foule de choses en tout cas.
Je me sens heureux.
Je ne peux pas par quoi commencer. Je ne peux qu'être très, très, très heureux dans la mesure où cette date du 17 mai, qui a précédé la prestation de serment, constitue pour nous l'aboutissement d'un très, très long combat. Pas de la FIDEL ni de M. Laurent Désiré Kabila, mais du peuple congolais tout entier, nous y reviendrons.
Que répondez-vous à certains compatriotes qui ont reproché, notamment Laurent Désiré Kabila, de mettre en place un régime plus dictatorial que celui de Mobutu, dans le domaine des violations des libertés, des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des détentions illégales, des exécutions sommaires, des expropriations, et même la correction par le fouet?
Avant toute chose, je crois qu'il serait préférable de situer l'événement et la personne dans son contexte historique pour mieux comprendre les choses. On a tendance à assimiler la victoire du 17 mai à tous les autres combats qui ont eu lieu dans ce pays. Or, il y a une distinction nette, importante, qui existe. Le combat qui a abouti le 17 mai est un combat qui avait été initié depuis de très 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 longues années, depuis que le Congo est Congo, et même avant, puisqu'il s'agit d'un combat pour la liberté et pour la souveraineté. C'est donc de cette problématique-là qu'il s'agit. Et Moussa Laurent Désiré Kabila n'a fait que continuer cette lutte après la disparition de Lumumba et l'a fait aboutir le 17 mai.
Vous avez fait partie des gouvernements du 22 mai 97, de juillet 97 et du 4 janvier 98, où vous occupiez les postes de ministre de l'Information, Presse et Propagande en tant que membre de l'AFDL. 17 mai 97, 17 mai 2009, 12 ans après, qu'est-ce qui reste de l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila?
Il ne peut rester que l'essentiel.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si on connaît la nature du combat mené par Moussa Laurent Désiré Kabila, on ne peut qu'être d'accord que le combat pour lequel il s'est illustré consistait à rétablir le Congolais dans sa dignité. Or, la dignité des Congolais est avant toute autre chose. Quel que soit le parti politique ou toute autre adhésion à une idéologie, il y a d'abord le nationalisme et le patriotisme qui doit nous guider, qui doit être le moteur. Et c'est ce qui est le cas dans la plupart des pays. Vous pouvez aller en France, en Belgique, aux États-Unis, il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher et qui pourraient laisser les Américains, toutes tendances confondues, indifférents.
Le Congolais aujourd'hui est-il plus nationaliste qu'il y a 10 ans?
Il y a beaucoup à faire. Lorsque Moussa était au pouvoir, il y avait une campagne d'éveil patriotique en permanence. Et puis, il y avait les comités du pouvoir populaire qui permettaient aux Congolais de s'impliquer de manière permanente à l'évolution politique de leur pays. Ça éveillait en eux ce sentiment patriotique qui doit toujours être présent dans tout ce qu'ils font.
Dans l'AFDEL, vous avez travaillé comme porte-parole de cette alliance, formateur des cadres politiques et administratifs, membre du directoire et secrétaire général des comités de pouvoir populaire CPP, qui pourtant semblait à l'époque bien marcher. Mais pourquoi cette philosophie n'a-t-elle pas pris racine? Était-elle mal conçue ou mal appliquée?
Bien, vous voyez, nous sommes arrivés au pouvoir le 17 mai 1997 et le 2 août 1998, on nous a fait la guerre. C'est-à-dire que tous nos projets étaient mis en cause, que ce soit sur le plan politique, économique et autres. Malgré ça, on peut retenir beaucoup de choses que nous avons fait en très peu de temps, qui montrent que nous étions quand même sur la bonne voie. Dans une très courte période, nous avons lancé une nouvelle monnaie qui était relativement forte et qui tient le coup jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est plus devenu la monnaie des singes que nous avons trouvée ici.
Même si maintenant il y a quelques balbutiements.
C'est les balbutiements, ça arrive même au dollar. Hein. On peut étudier l'histoire, on verra que le dollar même a subi des coups dans sa vie. Et pour nous, qui sommes dans un contexte tout à fait particulier, nous ne pouvions qu'avoir des difficultés. D'autant plus que nous étions combattus de l'intérieur comme de l'extérieur, et c'était très difficile pour le gouvernement de faire du public de manœuvrer. Tout s'est ressenti dans tout ce que nous faisions. Et en plus de cela, nous venions d'hériter une situation catastrophique sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, etc. Et ce n'était pas évident de changer tout cela en très peu de temps. Mais nous avons lancé quand même des chantiers qui semblaient donner des résultats positifs.
Oh, my God.
Raphaël Guenda-Shongo Wembankoy, vous êtes un ancien porte-parole de l'AFDEL, de feu le président Laurent-Désiré Kabila, ancien ministre de l'Information, Presse, Culture et Arts et secrétaire général des comités de pouvoir populaire CPP. Vous et Laurent-Désiré Kabila demandé aux Congolais de se prendre en charge. Aujourd'hui, pensez-vous que le Congolais se prend valablement en charge?
Moi, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai réponse de la manière suivante. Je dis qu'il s'agit là d'une philosophie d'auto-prise en charge. Le nationalisme, le patriotisme prôné par Lumumba et Laurent Désiré Kabila, même avant, avec Simon Kimbangu, souvenez-vous, il disait que un jour fixé par le Seigneur, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. Métaphore qui voulait dire tout simplement que le noir deviendra souverain chez lui. La souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire être maître de son destin. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et en toute chose, il faut que le Congolais soit capable de faire des choses par lui-même, au lieu d'attendre toujours, avant tout, n'est-ce pas, d'être assisté par l'étranger. Il faut d'abord que le Congolais puisse agir lui-même, donner. D'ailleurs, il faut que l'étranger vienne. Il faut qu'il ait aussi ces garanties-là.
Qu'il trouve les conditions.
En tout cas, quand il vient de bonne foi, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et même s'il ne vient pas de bonne foi, si le Congolais a conscience, n'est-ce pas, de ce qu'il doit faire pour soi, eh bien, même s'il y a des étrangers qui viennent de mauvaise foi, ils sauront faire face. Alors, c'est de cette auto-prise en charge-là qu'il s'agit. D'abord, sur le plan politique, il faut que les Congolais soient libres de décider de leur destin, de tout ce qui leur concerne. Il ne faut pas que ce soit toujours les étrangers qui décident de ce qu'ils doivent faire. Donc, sur le plan politique, il y a cela. Mais il y a beaucoup d'autres choses que le Congolais devrait faire aussi, c'est-à-dire de s'auto-suffire. Sur le plan, par exemple, alimentaire, avoir une sécurité alimentaire. C'est comme ça que vous avez vu que Mouzé avait lancé les services nationaux, la réserve stratégique, les cantines populaires, et en plus de cela, moi qui vous parle en tant que secrétaire général, j'ai distribué des micro-crédits pour que chacun, dans chaque quartier, dans chaque rue, puisse soit élever des poules, des lapins, etc., qu'il faire un lopin de terre quelque part dans le plateau de Kinshasa, par exemple. La connexion de tout cela pouvait permettre aux Congolais de ne plus tendre la main à l'extérieur pour ce qui lui est essentiel, c'est-à-dire la nourriture.
En ce qui vous concerne, vous avez été lancé très tôt dans la politique par votre père. Parlez-nous brièvement de lui, c'était aussi un acteur politique, votre père.
Mon père, Armand Guenda, était un des tout premiers, avec les Lumumba, à éveiller la conscience, n'est-ce pas, des Congolais, pour l'indépendance. Et à l'époque, on ne les prenait pas au sérieux, tous ces gens-là, les Lumumba et autres. Quand ils disaient qu'il faudrait que les Blancs rentrent un jour chez eux, hein, quand vous voyez dans le contexte de l'époque, dans les années 40, etc., quelqu'un qui vous parlait de ça, alors que les Blancs étaient tout puissants ici, eh bien, c'était l'un de ces gens-là, mon père. Après, il a été un responsable, parce qu'à l'époque, il y avait des associations ethnique, et il avait joué un rôle important dans la fédération des Batetela où il était président, ici à Kinshasa, et c'est lui qui avait accueilli derrière Lumumba quand il est revenu, et il est venu de Kisangani, etc. Ils ont combattu ensemble.
Alors, votre père vous a donné le goût de la politique, nous allons le voir tout de suite. Le 11 octobre prochain, vous aurez 63 ans, Kinshasa est le lieu de votre naissance, vous êtes issu d'une famille de 18 enfants, dont 14 filles et 4 garçons. En exerçant déjà des activités politiques dans votre jeunesse, votre père vous envoyait lancer des tracteurs, faire ceci et cela. Quel type d'enfant étiez-vous?
Bon, j'étais très très curieux. Souvent, j'assistais au débat houleux qu'avaient nos parents, les Lumumba et les bien d'autres qui venaient régulièrement chez nous à la maison, souvent tard la nuit. Et quand les autres dormaient, moi je m'arrangeais pour venir écouter, même si je ne comprenais pas grand chose, en tout cas, j'assistais presque ça, souvent à ce genre de débat. Et puis, dans la journée, quelquefois, on nous remettait des journaux, aller distribuer ça à tel ou tel endroit, ou aller glisser sous les portes des tracts, etc. On avait 11-12 ans à cette époque-là.
Une enfance déjà très mouvementée.
Je peux dire que j'étais un cadeau politique déjà.
Avez-vous du temps pour les jeux, le sport, comme d'autres enfants?
Oh oui, j'aimais beaucoup le foot et puis j'étais un bon attaquant quand j'étais jeune.
Vous êtes marié et père de 7 enfants, vous êtes 3 fois grand-père. Ginda Shongo Wimbankoi, que signifie votre nom?
Eh bien, Ginda, c'est le bien-aimé, et puis Shongo, ça veut dire She-Olongo. She-Olongo, c'est-à-dire père céleste. Et Wembakoy, c'est le héros roi.
Raphaël Ginda, vous faites des études primaires ici à Kinshasa et à Kikwit dans le Bandundu. Les secondaires, c'est à Kinshasa, en Suisse et en France. Dans quelle école exactement?
Eh bien, ici à Kinshasa, j'ai commencé mes études primaires à Bandalungwa. D'abord, c'était à Sinkin, puis à Okatsemula, ensuite à l'Athénée de Kalina. Et enfin, je suis allé en Suisse, à l'école de Roche, et à Paris, où je suis allé dans un ce qu'on appelle boîte à bachot, au quartier latin à Paris, avant d'aller à l'université d'Assas pour la capacité en droit. Ensuite, je suis allé à l'université de Clignancourt et ensuite à l'université de Vincennes, Paris 8, où j'ai obtenu la licence et la maîtrise de droit. Et concomitamment, j'étais à l'Institut de criminologie, sans oublier l'école de hautes études.
Oh là là,
À cette époque-là, on était vraiment... c'était une autre mentalité. On voulait tout connaître, emmagasiner les maximums de connaissances, etc. Et après, je suis allé continuer mon exil en Belgique, où j'ai commencé quelques études de droit encore pour préparer mon doctorat. Donc, je suis doctorant jusqu'à ce jour.
Nous l'avons dit, dans votre jeunesse, votre enfance déjà, vous étiez membre de la jeunesse nationaliste congolaise, et en Europe, vous avez soutenu plusieurs mouvements de libération africains et même sud-américains. C'est le cas de l'ANC en Afrique d'Afrique du Sud, SWAPO en Namibie, NPLA en Angola, ZANU-PF au Zimbabwe, le régime cubain, vous l'avez soutenu. En 82, vous rencontrez M. Laurent-Désiré Kabila, et en 83, vous devenez membre de son parti. Racontez-nous brièvement les conditions dans lesquelles vous vous êtes rencontrés.
En fait, j'ai rencontré Mouzé sans savoir que c'était lui, en Ouganda en 1967, où mon père était diplomate. Moi, je fréquentais régulièrement ce qu'on appelait à l'époque les rebelles congolais qui seraient en exil là-bas. Naturellement, aux grandes dames de tous les diplomates qui étaient là-bas. Et d'ailleurs, mon père a eu des problèmes après, à cause de tout ça. Alors, les camarades, à l'époque, me l'ont présenté. Et on s'était chaleureusement salués et puis on a bavardé un peu. C'était en 1967. C'est même après que je saurais, des années longtemps après, que c'était Mouzé qui était là. Alors, en 82, nous nous retrouvons à Rotterdam, où il y avait une rencontre qu'on a appelée Tribunal des Peuples sur les Zaïre.
Aux Pays-Bas?
Aux Pays-Bas, oui. Et c'est là où Mouzé est venu pour assister à cette rencontre, et on a fait connaissance. Il y avait le PRP qui s'était retiré un peu dans une salle pour préparer son intervention, et c'est lui qui était en train d'écrire, et nous on participait là pour critiquer tel passage, etc., etc. C'est dans cette circonstance-là qu'on s'était rencontrés. Et déjà, on avait commencé à travailler.
Nous avons quelqu'un en ligne. Allô?
Oui?
Bonjour, monsieur. Nous avons quelqu'un qui a souhaité qu'on vous appelle. Il souhaitait vous parler. Ça faisait un bon moment. Je vais lui donner l'occasion de vous parler. Allez-y.
Allô?
Allô, oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, camarade Raphaël, Ginda, l'ambassadeur du Congo.
Ah, camarade de combat.
Bonjour, mon camarade.
Eh bien, vous savez que la date fatidique approche, là. Je suis ici à Okapi pour ça.
Oui.
Alors, j'ai pensé à vous parce qu'à l'époque, nous menions le combat médiatique, vous vous souvenez?
Je me souviens très bien. D'ailleurs, des circonstances même dans lesquelles nous nous sommes rencontrés.
Oui.
C'était des circonstances de combat puisque c'était il y a à peu près 20 ans à Autriche.
Voilà,
je suis. Vous étiez venu avec les camarades d'Akouji, vous présentez le PRP, du camarade de Laurent Kabila.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, au bout du fil, c'est l'ambassadeur Eddy Angoulou Mabengi, et vous avez souhaité Raphaël Guenda, qu'on appelle pour vous souvenir un peu de votre combat ensemble. Alors, monsieur l'ambassadeur Eddy Angoulou, qu'est-ce que vous retenez de l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila?
Alors, moi, je retiens de l'héritage de Laurent Désiré Kabila, naturellement, la chute, la fin de la dictature de Mobutu, la dictature qui s'est glissée dans notre pays depuis 32 ans. Si c'est une chose à retenir, c'est cela. C'est d'avoir réussi à renverser une dictature qui a opprimé notre pays pendant 32 ans, notre peuple pendant 32 ans.
Nous n'allons pas vous prendre tout votre temps. Je vais demander à Raphaël Guenda de nous dire qu'est-ce que vous retenez, vous, de la personnalité de l'ambassadeur Eddy Angoulou.
Eh bien, c'est un éveilleur de conscience. Je me souviens très bien qu'il avait beaucoup écrit pendant que nous étions en exil. Il avait écrit sur la jeunesse congolaise pour les inciter à prendre conscience de leur devoir dans la société. Je crois qu'il s'agit... je me souviens plus d'ici très très bien des enfants de... Voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Et tout ça, ça a joué un rôle. C'était une manière de combattre. Et puis, pendant la guerre de libération, souvent, ces interventions alternées avec les miennes sur BBC, notamment, n'est-ce pas, camarade?
Absolument. Je veux simplement dire que tu as été d'un apport extraordinaire. Alors, Raphaël Guenda, c'était le pilier pour monter Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il n'avait plus que deux militants politiques qui le suivaient pour toute l'Europe, il s'appelait Raphaël Guenda et Gaëtan Kakouji.
Monsieur l'ambassadeur Eddy Angoulou, nous vous remercions. C'était par surprise qu'on vous a appelé, hein. D'ailleurs, ce n'était pas prévu. Généralement, dans l'émission, nous faisons le sens inverse. Nous vous remercions et vous souhaitons bonne journée.
Merci à vous et bonne journée. Bonne fête du 17 mai pour tout le peuple congolais.
Merci, au revoir.
Merci.
Et valé à Congo, et j'allais le pangota, agir j'allais seul de là. Yahweh, va t'en mi pongo. Yahweh, venis à pongo. Yahweh, va t'en mi pongo. Ekwatare mabenga,
Raphaël Guinda. Beaucoup de temps ont passé après le 17 mai, les élections sont arrivées. Aujourd'hui, qu'est devenu Raphaël Guinda?
Eh bien, après Sun City, il y a eu cet accord qui a amené une nouvelle constitution. Et dans cette constitution, il était dit que toutes les institutions qui n'étaient pas reprises dans la nouvelle constitution de transition tombaient. Moi, j'étais jusque-là secrétaire général des comités du pouvoir populaire, CPP. Évidemment, avec la mise en place des nouvelles institutions, nous ne nous retrouvions pas. Alors, à partir de ce moment-là, déjà, je présentais cela et j'avais déjà relancé un processus pour créer une structure politique. D'abord, il y avait eu le Parti de la démocratie gouvernante, le PDG. Mais comme j'étais secrétaire général, je ne pouvais pas apparaître. Et ce sont les autres qui ont pris la charge d'animer cette structure, qui est tombée à l'état juste totalement par la suite. Et après la dissolution des CPP, j'ai créé l'Alliance des nationalistes congolais, plateforme, dont je suis le président jusqu'à ce jour. Au départ, il y a eu jusqu'à 16 partis faisant partie de cette plateforme, mais avec la léthargie que nous avons connue, nous sommes réduits vraiment à 4 partis et nous avons quand même un député à l'Assemblée nationale.
Ah oui. Mais pourquoi les compagnons de M. Laurent?
Et nous sommes membres de l'AMP.
Ah. Mmh. Mais aujourd'hui, les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila ne sont pas présents dans les institutions. Bon, ça vient avec un député. Peut-on considérer que plusieurs d'entre vous avaient raté votre intégration dans la vie politique actuelle?
Eh bien, comme je disais tout à l'heure, nous sommes membres de l'Alliance de la majorité présidentielle,
dans l'ombre même des grands partis.
Hein, oh, majorité. Nous sommes là. En tout cas, nous sommes là et nous agissons ensemble avec les autres pour consolider la majorité présidentielle et nous n'avons pas changé jusqu'à ce jour de position. Nous sommes fermement attachés justement à cette structure et nous appuyons sans réserve le président de la République qui est un camarade de combat, d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Et nous sommes là. Lui, il est le sélectionneur et nous sommes à la réserve. Chaque fois qu'il aura besoin de prendre quelqu'un pour aller marquer des buts, nous sommes là de grands buteurs, vous le savez bien.
Donc en attendant, vous êtes sur le banc des réserves.
Absolument.
Pour clôturer cette émission, Raphaël Guinda, un message à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment.
Bien, d'abord, félicitations à tous les Congolais pour avoir généré cette date du 17 mai. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas seulement l'AFDEL qui a gagné le 17 mai, c'est le peuple congolais qui a gagné, qui a compris le sens de la lutte que nous avons menée. Ce n'est pas un combat contre qui que ce soit, c'était un combat pour la liberté, pour la souveraineté du peuple congolais, pour le rétablir dans ses droits, parce que depuis l'éviction de Patrice Lumumba en 1960, le peuple congolais était soumis à un régime qui n'était pas un régime qui procédait de ses aspirations, de sa volonté. C'était un régime qui lui a été imposé. et pas seulement par ses propres frères, mais surtout imposé de l'extérieur. Tous ceux qui ont été au pouvoir jusqu'à cette époque-là étaient manipulés par l'extérieur. Et lorsque le combat que Mouzé a mené à partir du moment où ses aînés avaient lâché prise, dans les débuts des années 60, c'était justement pour rétablir les Congolais dans leur propre droit. Et en 1996, le peuple congolais avait compris le sens de ce combat et avait apporté un appui sans réserve, comme vous avez pu le constater, pendant cette période-là. Tout le monde a adhéré à la lutte de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de la FDEL. Et c'est comme ça, heureusement, que nous avons pu réussir à arriver à Kinshasa le 17 mai. Donc, félicitations à tous les Congolais et bonne fête du 17 mai.
Raphaël Genda, merci d'être passé à Grand Témoin.
Je vous remercie.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je reçois Raphaël Genda Chongo Wembankoy, ancien porte-parole de la SDEL, de le président Laurent Désiré Kabila, ministre de l'Information, Presse, Culture et Arts et secrétaire général des comités des pouvoirs populaires CPP. Sylvain Matundu était à la technique, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Mbujimaï, au Kassai Oriental et partout dans le monde.